La recherche sur la maladie d'Alzheimer avance à Toulouse, Isabelle Duché.
Une nouvelle étude réalisée par l'Université de Toulouse vient d'être publiée. Elle a cherché ce que l'environnement modifie dans le cerveau et nous verrons comment ce travail de recherche fait avancer tout ce que nous savons sur la maladie d'Alzheimer. Nous sommes en ligne avec Laure Verret, maître de conférence en neurosciences à l'Université de Toulouse. Bonjour docteur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors on va y aller progressivement hein, parce qu'il faut quand même se réveiller et démarrer la semaine. J'aimerais bien, avant que vous nous expliquiez effectivement tout l'objet de votre recherche, que vous nous rafraîchissiez un petit peu la mémoire, si je peux m'exprimer ainsi. Depuis une quinzaine d'années, nous savons qu'un mode de vie stimulant permet de retarder le déclin cognitif de la maladie d'Alzheimer. Nous avions reçu à ce même micro le professeur Bruno Velas qui avait présenté l'Institut Hospitalo-Universitaire Health Edge et il nous avait expliqué que et pour retarder la dépendance, il fallait repérer précocement les facteurs de fragilité chez les seniors en ciblant 6 capacités intrinsèques, la mobilité, la mémoire, la vue, l'audition, l'état nutritionnel et l'humeur. Est-ce que vous pouvez nous préciser, docteur Laure Verret, comment cet environnement stimulant agit sur le cerveau?
Ben justement, jusqu'à cette étude, on n'en avait que peu d'indices. On savait que nécessairement l'environnement stimulant, alors ce qu'on appelle un environnement stimulant, c'est des stimulations cognitives, sensorielles, sociales.
C'est bien tout ce dont on parlait, là, la mémoire, la vue, l'audition, etc. C'est ça?
Oui, exactement. Mmh. Alors après, nous, on a fait des études chez la souris, à la différence du docteur Velas. Donc, on modélise ça chez des petites souris. Donc, ça consiste à les mettre dans des grandes cages qui changent hein, drastiquement des cages de laboratoire où elles sont une quinzaine au lieu d'être 4 ou 5. Il y a plein de choses qui changent tous les 2 jours. Et le grand défi, c'était de savoir qu'est-ce que ça modifie dans le cerveau, c'est-à-dire quel est le substrat finalement de cette amélioration. Parce que nécessairement, s'il y a une amélioration, alors biologiquement, il y a quelque chose qui la contient, qui la maintient.
Et on va voir tout ça, jusqu'à présent, donc vous vouliez voir comment ça modifie le cerveau, parce qu'on savait qu'il y avait des éléments qui pouvaient stimuler, mais on voulait voir comment ça modifie, c'est ça la différence.
C'est ça, chez l'humain, effectivement, c'est très difficile évidemment d'aller regarder les mécanismes précis, et ce qu'on savait jusqu'alors, c'est que on avait des gens qui étaient, alors à la différence du docteur Velas, ici on parle vraiment d'un cas complètement pathologique hein, de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est connu dans le vieillissement en général, cette amélioration globale de l'état de santé grâce au mode de vie. Mais dans la maladie d'Alzheimer, très précisément, ça a été montré qu'il y avait des personnes qui avaient ce qu'on appelle une réserve cognitive. C'est-à-dire que les personnes qui sont malades, on sait qu'elles ont la maladie, elles ont tous les marqueurs de la maladie d'un point de vue de leur cerveau, qu'on peut voir par imagerie par exemple. En revanche, au niveau cognitif, elles ont des troubles très modérés, voire complètement absents jusqu'à un âge très avancé. Et au final, c'est que très tard, voire trop tard, qu'on se rend compte qu'elles ont la pathologie, du coup, puisqu'elles montrent un déclin cognitif assez tardif. Et souvent, ce sont des Alzheimer qui donc apparaissent d'un point de vue cognitif très tard et qui donc sont assez agressifs dans le temps, c'est-à-dire que ça va aller très vite et le déclin cognitif va aller très vite. Donc c'est des gens qui ont déclenché la maladie tard. Et donc la grande question, c'est qu'est-ce qui fait qu'ils étaient malades et qui pourtant, ils ne montraient pas finalement les signes de sa maladie. Le cerveau était malade, mais il fonctionnait bien. Donc ça, c'était vraiment le grand mystère qu'on cherche à élucider.
D'accord. Quand vous parlez de réserve cognitive, docteur Laure Verret, c'est cette capacité du cerveau à mobiliser des ressources pour compenser en fait les effets de la maladie, c'est ça?
Voilà, exactement. C'est un cadre théorique qui a été mis en place par rapport à ces observations, ce qui est vrai pour Alzheimer et qui est vrai pour d'autres pathologies qui entraînent des déclins cognitifs. Et donc, on disait, ces gens, ils ont quelque chose de différent. Leur cerveau arrive à fonctionner malgré l'atteinte pathologique. Mais jusqu'à présent, on n'avait pas d'idée encore de quel type de neurones, de quelles choses pouvaient être modifiées aussi durablement pour avoir cet effet-là.
Alors, vous avez fait, vous l'aviez dit, hein, des recherches sur des souris. On va entrer dans les différentes étapes, mais globalement, quel a été l'objet de votre travail?
Ben justement, l'objet de ce travail, c'était de savoir qu'est-ce qui fait ces souris, puisqu'on a reproduit ça chez la souris, ce cadre théorique qu'on avait chez l'humain. on a montré déjà il y a des années que si ces souris qui sont programmées génétiquement pour avoir Alzheimer, et c'est la grosse différence aussi avec les patients humains.
Oui, heureusement, ils ne sont pas programmés pour avoir Alzheimer.
Alors, certains, très malheureusement, heureusement, sont des cas graves, ont une mutation génétique et eux, ils l'auront malheureusement très jeune. Oui. Mais dans la grande majorité des cas, plus de 95% des cas, il s'agit de ce qu'on appelle une forme sporadique, c'est-à-dire que ça arrive pour des facteurs environnementaux. Et chez ces souris, en revanche, elles sont programmées puisqu'on ne peut pas faire autrement, tout simplement. Et donc, c'est d'autant plus fort, finalement, puisque génétiquement, elles sont programmées pour avoir Alzheimer. Et pourtant, on sait que si, à un âge assez jeune, alors chez la souris, ça va être 3-5 mois, ça correspond à un jeune adulte chez l'humain, on va dire, à peu près. Si on les met pendant quelques semaines seulement dans un environnement riche, eh bien, une fois beaucoup plus âgées, ce qui correspondrait à peu près 70 ans environ chez l'humain, elles ne montrent pas du tout de troubles cognitifs sévères par rapport à des souris âgées qui, elles, n'ont pas cette maladie. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a observé il y a plus d'une dizaine d'années, nous et d'autres équipes. Et voilà, donc nous, ce qu'on a cherché à savoir, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pendant cette période qui dure aussi longtemps pour permettre un maintien des capacités cognitives chez la souris.
Alors, vous avez procédé en plusieurs étapes. Par quoi avez-vous commencé précisément ?
En fait, on a été d'abord, alors c'est le travail de mon ancien doctorant Guillaume Bouisset, qui est aujourd'hui postdoctorant en Espagne. Juste pour vous dire, le contexte, c'était le Covid. Donc, on a eu aussi des contraintes temporelles liées à l'arrêt complet des expériences pendant plusieurs mois. En plus, nous, c'était un contexte où le laboratoire devait déménager. Et donc, on avait un défi, c'était on avait juste quelques souris et on devait réussir à démontrer ce qu'on voulait démontrer. Et donc, il a eu l'idée de dire, et si on raccourcit le temps de ce qu'on appelle l'environnement enrichi, c'est-à-dire ce moment où on stimule les animaux, alors finalement, mes manips, elles rentrent dans le temps imparti.
Et donc, vous l'avez réduit à combien de temps
On l'a rendu à 10 jours. 10 jours. C'était quand même assez... J'étais assez perplexe, hein, pour être honnête, puisque moi, à l'époque, je faisais 10 semaines. Donc, on n'a vraiment pas dans un autre...
Oui, c'est pas le même rapport, là.
Voilà. Alors après, il y avait d'autres études qui montrait que chez l'animal sain, 10 jours, c'était suffisant pour modifier le cerveau. Maintenant, ça n'avait aucune idée de si chez l'animal malade, ça pouvait faire la même chose. Et heureusement, pour nous, pour la thèse de Guillaume et pour la recherche, ça a très bien fonctionné, puisqu'apparemment, chez ces souris, il suffit de 10 jours dans un environnement riche pour que même un mois après, elles montrent des améliorations nettes de leur mémoire. Alors, chez les souris, on a mesuré ce qui est de la mémoire spatiale et ce qui est de la mémoire sociale, c'est-à-dire la capacité à reconnaître des congénères ou à percevoir une modification sensible de leur environnement, comme on pourrait le voir chez des sujets humains.
Et en ce qui concerne, par exemple, ces tests de mémoire spatiale, en fait, vous avez remarqué que les souris réagissaient à partir d'objets qui avaient été déplacés.
Voilà, c'est ça. C'est des choses qui se font très classiquement pour mesurer la mémoire spatiale. C'est aussi un test qui est très rapide. Et vu que nous, on avait besoin que les choses soient assez rapides, c'est en une fois, hein, en quelques minutes, on montre à l'animal un environnement, on la met dans un environnement. C'est comme si vous étiez dans une pièce où vous avez les meubles dans un certain agencement. Et puis, on vous re-rentrait quelques heures plus tard dans la même pièce et on a inversé le canapé et la table, par exemple. La souris, ce qu'elle montre, évidemment, puisqu'elle ne peut pas parler, c'est qu'elle montre par son comportement qui est important, c'est qu'elle est curieuse de nature, comme tout le monde a pu le constater, je pense, quiconque a croisé une souris. Et donc, elle va passer plus de temps à explorer ce qui a été modifié par rapport à ce qu'elle connaît déjà. Donc pour nous, une souris qui n'explore pas les objets qui ont été déplacés ou pas plus que les autres objets, ça montre indirectement qu'elle n'a pas souvenir qu'il y a eu le déplacement de ces objets.
Et oui, c'est ça, voilà. Vous avez ensuite analysé le tissu cérébral des souris atteintes de la maladie d'Alzheimer, placées dans des environnements stimulants. Qu'est-ce que vous avez découvert, Laure Vernet ?
Alors là, ce qu'on a vu, on avait déjà quand même des suspects cérébraux dans des neurones dont on sait qu'ils sont très sensibles justement aux stimulations environnementales, en particulier quand on est petit. Donc c'est des neurones qui sont extrêmement importants quand on est très jeune pour modeler le cerveau de façon à ce qu'il réagisse de façon adaptée à notre environnement. Donc ça, on le sait aussi depuis des décennies. Et on s'est demandé si finalement ces mêmes neurones, dont on sait qu'ils fonctionnent très mal dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, on a déjà aussi montré ça il y a plus de 10 ans maintenant, et de savoir s'ils étaient, ils étaient recrutés, en fait, ce qui changeait leur comportement, ces neurones, suite à un environnement enrichi. Et on a pu montrer indirectement que c'était bien le cas, c'est-à-dire que ces neurones, on les voit pas, entre guillemets, alors quand on dit on ne voit pas, c'est-à-dire quand on regarde le tissu cérébral et qu'on fait des marquages, ils n'apparaissent pas. Mmh. Pendant plusieurs années, les gens pensaient d'ailleurs qu'ils mouraient. Et ce qu'on a montré il y a quelques années également et qu'on a confirmé ici, c'est que finalement, ces 10 jours d'environnement riche en stimulation, ça a permis de les faire réapparaître. Alors, ils ne sont pas ressuscités. C'est juste qu'ils n'étaient tellement pas sollicités qu'on ne les voyait pas.
D'accord, ce n'est pas une reconstruction alors ?
Pas du tout. Non, non. Et non. Et c'est ça qui est bien dans un cadre conceptuel, c'est que finalement, ce que ça montre, c'est que malgré la maladie, dans une forme en plus génétique, donc d'autant plus agressive, on va dire, ces neurones, même s'ils dysfonctionnent, ils sont là. Et donc, s'ils sont là, eh bien, on peut potentiellement les réveiller quelque part. Oui. Et l'environnement enrichi, c'est un des moyens de le faire.
D'accord. Pour réveiller ces neurones qui sont endormis ou en tout cas qui sont cachés, comme vous dites.
Voilà, qui sont trop peu actifs, ouais, qui sont latents presque, qui sont très peu actifs et que du coup on n'arrive pas à détecter. Mm. Ce qui sous-entend qu'en fait ils ont un rôle majeur, ces neurones. On dit souvent qu'ils sont les chefs d'orchestre du cerveau. En fait, ce sont des neurones qui inhibent les autres neurones. Alors ça peut paraître bizarre de se dire que il faut qu'il y ait inhibé les autres neurones pour que le cerveau fonctionne bien. Mais si vous réfléchissez effectivement au rôle du chef d'orchestre, imaginez tous les instruments qui jouent quand ils en ont envie et la mélodie va pas être terrible normalement. Mmh. Alors que si vous rajoutez un chef d'orchestre qui va signifier à tel ou tel instrument ou tel ou tel neurone, en l'occurrence de pas jouer à ce moment-là, eh bien vous avez une mélodie qui naît. Et c'est exactement ce qui se passe dans le cerveau des sujets Alzheimer. Ils sont, contrairement à ce qu'on n'imagine pas, c'est pas un cerveau qui fonctionne peu, c'est finalement un cerveau qui fonctionne trop tout le temps, et donc le message est complètement brouillé, et c'est de la cacophonie, et il y a besoin d'organisation pour que les choses reviennent.
Oui, c'est ça. Et alors, dans votre étude, vous montrez que quand il y a quelque chose de nouveau, une information, une expérience, les neurones donc se réorganisent, ils produisent une protéine qu'on appelle la parvalbumine,
ouais,
avec des filets périneuronaux, et ces derniers, ces filets, ils clôturent en fait la phase d'apprentissage, et c'est ce qui permet de conserver les souvenirs, c'est ça?
Bien, c'est ça, très bien, tout à fait. Alors, la parvalbumine, c'est finalement ces fameux neurones chefs d'orchestre, ils expriment cette protéine-là.
C'est
et c'est cette protéine dont on sait que plus ces neurones seront actifs, plus ils vont en produire. C'est pour ça qu'on ne les voyait pas. C'est qu'en fait, ils en produisaient trop peu. Mmh. Et suite à l'environnement enrichi, ils en produisent beaucoup plus parce qu'ils sont plus actifs et donc on arrive à les détecter.
C'est ça.
Et effectivement, ce qu'on appelle les filets périneuronaux, en fait, ce sont des choses qu'il y a autour de certains neurones, dont ceci, qui est une forme assez claire, hein, de filet, effectivement. C'est comme une maille qui va entourer ces neurones. Et on ne connaît pas exactement complètement leur fonction, mais on sait que si cette maille est présente, alors les synapses, donc les contacts qui se font sur ces neurones, vont être protégés. Et finalement, ça va garantir l'intégrité du réseau que ces neurones contrôlent. Donc en gros, ça va être un peu une espèce d'armure contre le chef d'orchestre.
Oui, c'est ça, c'est un peu comme un filet qui emprisonne les souvenirs, quoi.
Voilà, alors les souvenirs, encore faut-il qu'on sache exactement de quoi ils sont
oui,
constitués, mais qui emprisonnent les connexions entre les neurones qui, a priori, entre eux, possèdent nos souvenirs.
Ouais. Mmh. Et vous avez essayé de bloquer justement la formation de ces filets périneuronaux. Qu'est-ce qui s'est passé
voilà,
pour ces souris?
Bah là, c'est une approche classique quand on utilise en expérimentation, en science en général, c'est que si on veut savoir si quelque chose est nécessaire à une fonction, eh ben, on la supprime. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a placé ces souris dans un environnement riche. Par contre, on a empêché ces neurones à parvalbumine et ces filets périneuronaux, donc ce système-là, d'être affectés, modifiés par l'environnement enrichi. Et donc, pendant ces 10 jours d'environnement enrichi, uniquement dans une région précise du cerveau, on a empêché, tout le reste du cerveau pouvait être remodelé par l'environnement enrichi, sauf cette région-là. Et ce qu'on a fait a posteriori, c'est qu'on a regardé les capacités de mémoire des souris, celles qui dépendaient de la région dont on a empêché ces neurones et ces filets périneuronaux de réapparaître, et des tests qui dépendaient d'autres régions dont on a complètement permis l'impact de l'environnement enrichi.
Mmh.
On a pu voir que ces régions où il n'y avait pas de modifications liées à l'environnement enrichi, parce qu'on avait bloqué, ben, on n'y avait pas d'amélioration de mémoire.
Oui, c'est ça.
Alors que les régions qu'on n'avait pas bloquées, on voit toujours une amélioration de la mémoire. Mm-hmm. Donc ça, c'est vraiment une approche classique de perte de fonction, c'est-à-dire si on enlève le système, est-ce que ça fonctionne toujours? Et si ce n'est pas le cas, ben, ça veut dire que c'était nécessaire à ce que ce phénomène arrive. Mais le message quand même, c'est de dire qu'il y a des systèmes qui perdurent dans le cerveau malade et que si on arrive à les stimuler avec des médicaments ou autre chose, et j'insiste sur le ou autre chose, mm-hmm. alors on peut probablement améliorer leur statut cognitif.
Voilà une bonne nouvelle pour commencer la semaine. Merci beaucoup, docteur Laure Verret. Vous nous avez informé ce matin des avancées de la recherche sur la maladie d'Alzheimer.
Merci à vous.